Unitaire, au cœur de l'action des défenseurs de l'environnement. Une émission de Michel Forst et Magali Lafourcade. Produite par Amicus Radio.
Bonjour à toutes et tous. Dans cet épisode, nous aborderons le rôle fondamental du journalisme. Le premier pilier de la Convention Aarhus consacre le droit à l'accès à l'information. Mais cette information, une fois qu'elle est accessible, il s'agit encore de la rendre compréhensible par le public et de permettre son appropriation pour que le public puisse participer à la prise de décisions, et en particulier des décisions ayant des incidences sur l'environnement. À cet égard, par la recherche, l'analyse et la diffusion de l'information, les journalistes jouent un rôle clé. Leurs enquêtes révèlent les pressions des groupes industriels, les stratégies pour semer un doute climato-sceptique ou encore les petites et grandes lâchetés des gouvernements. Dans la perspective d'une démocratie environnementale, l'accès à une information fiable est un impératif. Les autorités publiques sont censées donner accès à ces informations, mais celles-ci sont souvent très techniques. Et le journaliste apporte sa capacité d'analyse, de décryptage et de mise en perspective dans un contexte plus large. De nombreuses rédactions se sont dotées d'une charte, comme la charte pour un journalisme à la hauteur de l'urgence écologique, ou encore Le Monde qui s'est doté d'une charte climat et environnement. S'appuyant sur le consensus scientifique sur la crise environnementale, climatique et le déclin rapide de la biodiversité, ces chartes visent à définir un ensemble de principes et d'exigences dans le traitement de l'information autour de ces enjeux. La charte pour un journalisme à hauteur de l'urgence écologique a été signée par de nombreux journalistes, rédactions, écoles de journalisme, boîtes de production, syndicats et collectifs de journalistes. L'idée qui préside à cette charte est de considérer que l'heure n'est plus à la prise de conscience, mais à l'engagement et l'exigence, tout en étant bien sûr très soucieux de ne pas se transformer en un média militant. Il s'agit de proposer aux lectrices et aux lecteurs les éléments d'information pour qu'ils puissent se forger eux-mêmes une opinion éclairée. Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Stéphane Foucard, qui est journaliste au Monde. Bonjour.
Bonjour.
Stéphane Foucard, tu es l'auteur de nombreux ouvrages et enquêtes et tu as reçu de très nombreux prix pour la qualité de ton travail. Merci beaucoup d'être avec nous pour échanger à ce sujet. Comment perçois-tu l'évolution de la profession pour fournir un traitement de l'information à la hauteur de la crise climatique et environnementale ?
Alors c'est toujours évidemment très insatisfaisant et je ne parle pas seulement de la qualité de l'information qui est fournie, qui je crois en fait c'est très largement amélioré ces dernières années. On se souvient qu'il y a une quinzaine d'années, quand il y a eu la première grande campagne climato-sceptique en France, les médias, et en particulier les médias audiovisuels, ont joué le jeu de cette campagne en quelque sorte en faisant de ce qu'on appelle le faux équilibre, c'est-à-dire en mettant sur un pied d'égalité
les opinions contraires.
Des opinions contraires, celles qui sont fondées sur rien d'autre que des opinions, et puis celles qui sont effectivement fondées sur un consensus scientifique extrêmement large. Donc de ce point de vue-là, je pense qu'il y a eu des efforts qui ont été faits, et puis une compréhension un petit peu des enjeux. Mais je crois qu'on est encore très très loin du compte pour de simples questions de hiérarchie en fait, de l'information. Et aujourd'hui, dans l'écosystème médiatique tel qu'il fonctionne, qui intègre à la fois les réseaux sociaux, les chaînes d'information en continu, la presse écrite, la presse audiovisuelle grand public, je pense que le discours dominant, les informations dominantes, celles que tout le monde a à l'esprit, ce ne sont pas des informations qui ont trait aux questions environnementales d'une manière générale, même si elles sont absolument cruciales. Et on le voit, par exemple, cet été, ce qui a dominé la vie, mais même la vie biologique des gens, c'est la crise environnementale. C'est les chaleurs, les canicules, les sécheresses, les inondations, etc.
Et pourquoi est-ce que c'est parce que les rédactions ne font pas assez de place à ces informations-là ou c'est à cause du traitement ?
Alors, je crois que c'est une certitude, c'est que la presse, elle fonctionne bien pour traiter les événements. Elle a un fonctionnement événementiel, c'est-à-dire en fait à chaque événement correspond une couverture médiatique qui va durer 24, 48 heures. En fait, je dis 24, 48 heures, mais de plus en plus, cet horizon de traitement, il se rétrécit. La société va de plus en plus vite et les médias vont aussi de plus en plus vite. Et donc, chaque événement va...
chasser le suivant.
Exactement. Et on a un traitement comme ça, des événements à haute fréquence, qui ne correspond pas du tout à la réalité des phénomènes qu'on vit, qui sont des phénomènes à basse fréquence, qui, en fait, à chaque minute qui passe, il y a plus de CO2 dans l'atmosphère. Mmh. C'est un phénomène lent qui s'incarne de temps à autre dans des phénomènes violents.
Exceptionnels et qui, du coup,
appellent l'attention. Mais une fois que ces événements sont sortis de l'actualité, on reprend un petit peu la couverture de l'actualité. Pardonnez-moi. comme si de rien n'était. Et je crois qu'en fait, on a une difficulté qui est une difficulté structurelle. Je ne suis pas certain qu'on puisse la surmonter avec les instruments journalistiques qui sont les nôtres et les supports qui sont les nôtres, qui est de faire correspondre un petit peu un traitement événementiel, un traitement à haute fréquence.
Avec une analyse au long cours.
Avec une analyse, avec un suivi au long cours des phénomènes que l'on vit.
Donc c'est un problème de culture professionnelle ?
Et il y a aussi effectivement un problème de culture professionnelle. Dans la plupart des grands médias, la hiérarchie des rédactions, elle est faite de manière à ce qu'on retrouve tout en haut, en général, des gens qui ont un passé dans les services politiques, ou les services société, ou les services économie. Et donc, ce sont des gens qui ont une culture professionnelle qui n'est pas une culture professionnelle axée sur les sciences de l'environnement, sur l'expertise, ce genre de choses.
Mais est-ce qu'il y a une génération qui monte ? Et parce que c'est devenu un enjeu politique et de société aussi.
Alors, j'aimerais bien dire qu'il y a une génération qui monte. Oui, il y a une prise de conscience un peu plus, plus large qu'il pouvait y avoir il y a quelques années dans toutes les rédactions. Hein. Il n'en reste pas moins que voilà, la vie médiatique, elle est ce qu'elle est aujourd'hui. C'est-à-dire qu'elle est aussi le fruit d'enjeux économiques, de prise de pouvoir. Hein. On le voit avec des chaînes de télévision ou de radio qui ont été récemment rachetées à des fins idéologiques. Et donc, la prise de conscience des journalistes de la profession ne fera pas tout à elle seule. C'est-à-dire qu'il y a d'autres choses à mettre en œuvre pour améliorer la qualité de la couverture journalistique.
Tu penses à quelque chose en particulier ?
Je pense, oui, il y a des choses qui ne sont pas très compliquées qui pourraient être faites hein, sur l'indépendance des rédactions. On peut très bien légiférer là-dessus. Hein. Nous, au Monde, on a tout un tas de garanties, de clauses qui mettent à distance, en quelque sorte, les actionnaires, à la fois sur la nomination du directeur de la publication, hein, du directeur du Monde, mais aussi sur le fait qu'il ne peut pas être, de manière unilatérale,
prescripteur,
démis de ses fonctions par les actionnaires. C'est-à-dire qu'il y a quand même un tas de garde-fous qui ont été établis au fil du temps. Depuis que le Monde a été racheté, ce sont des choses qui ne seraient pas très compliquées de mettre en œuvre ailleurs dans la presse.
D'accord. Donc les garanties d'indépendance à renforcer. Alors, le fait de travailler sur les sujets environnementaux peut faire des journalistes plutôt des cibles. Il n'est pas rare que dans le Monde, des journalistes subissent des pressions, des menaces, voire des agressions. Et certains sujets sont particulièrement délicats à traiter, comme la déforestation, l'extraction minière illégale, l'accaparement des terres, les conséquences environnementales d'activités industrielles. Et j'imagine que dans ton travail d'enquête, vu le nombre d'enquêtes très sensibles, très politiques et très économiquement sensibles que tu as portées, j'imagine que tu as dû rencontrer quelques difficultés. Quelles sont les entraves que tu as pu repérer pour tes confrères ou pour toi-même ?
Alors, je pense que les journalistes qui travaillent sur l'environnement ne sont pas soumis à des entraves qui sont très différentes de celles que peuvent subir les journalistes qui font de l'enquête sur les affaires politico-financières, etc. Ou d'autres sujets. Hein. Les journalistes qui traitent, par exemple, du conflit au Proche-Orient, ce genre de choses, sont aussi soumis à énormément de pression. Donc je ne crois pas que ce soit très différent de ce point de vue-là. En revanche, ce qu'on a pu observer, c'est sur les sujets qui mettent en cause, par exemple, certains secteurs économiques, certains acteurs certains acteurs industriels, certaines pratiques, on voit qu'en fait, les moyens de pression se sont un petit peu translatés et il y a une quinzaine ou une vingtaine d'années, ce qui faisait un peu peur aux rédactions, c'était les poursuites
en diffamation,
en justice, voire au tribunal de commerce, puisque c'est arrivé récemment, ce qui est vraiment, enfin en tout cas de mon point de vue, un détournement complet de l'esprit du droit, quoi. Et donc c'était vraiment ça les questions qui nous inquiétaient. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, avec la manière dont certains intérêts peuvent manipuler le débat public, intervenir sur la conversation, on a beaucoup plus à faire à des mécanismes de pression qui vise la crédibilité du journaliste, le fait de le décrédibiliser sur des sujets compliqués où il est très facile de construire, de tricoter tout un tas de controverses ou de choses trompeuses qui vont tromper la vigilance du public. C'est très facile de construire des narratifs pour voilà, expliquer que tel journaliste il n'est pas crédible parce qu'il est militant en faveur de telle ou telle cause, qu'il est inféodé à tel ou tel intérêt, etc. Et donc c'est plus ça en fait maintenant qui pèse sur les journalistes qui couvrent l'environnement.
Et comment les journalistes peuvent-ils se protéger face à ça ?
Ben, ils ne peuvent pas se protéger face à ça, parce que c'est... vous ne pouvez pas, c'est comme si vous êtes devant si vous êtes sur un réseau social, par exemple, vous êtes un petit peu comme quelqu'un qui est face à un nuage de criquets. Vous ne pouvez pas attraper chacun des criquets. Quoi. C'est-à-dire qu'il faut, voilà, il faut faire le dos rond, attendre que ça passe, et attendre que l'avenir vous donne raison. Et malheureusement, une fois que l'avenir vous a donné raison, en général, il est trop tard, quoi. Et donc, moi, je me souviens très bien d'il y a une quinzaine d'années, quand on couvrait les questions climatiques au monde, où on a pris vraiment soin collectivement de ne pas faire de faux équilibres, c'est-à-dire de ne pas mettre sur un pied d'égalité les climato-sceptiques et le consensus incarné par les rapports du GIEC. On a été traité de militants, d'activistes, etc. On a été accusé de bloquer l'expression d'un débat démocratique sur la question climatique, comme si le débat démocratique pouvait se translater naturellement sur l'arène scientifique. C'est évidemment pas comme ça que les choses fonctionnent. On a reçu quelques messages de lecteurs qui se sont excusés, parce que maintenant on voit que ce qui était prévu il y a 15 ans, non seulement se produit, mais se produit encore plus vite que ce que nous disions. Donc il faut attendre que les choses nous donnent raison, et malheureusement...
On n'est pas heureux d'avoir raison.
Ouais, on n'est pas heureux d'avoir raison, et surtout on est triste de voir que finalement les choses surviennent, quoi, et qu'on n'a pas été capable de produire une couverture journalistique susceptible d'entraver la survenue de toutes ces catastrophes, quoi.
Et alors tout à l'heure vous parliez de militantisme. Comment vous placez la frontière entre l'exigence, mais aussi l'engagement, donc de fournir une information fiable, étayée et qui puisse rendre compte de l'ampleur des enjeux en matière environnementale, climatique, et sur l'érosion de la biodiversité, et le militantisme.
Alors, je crois qu'effectivement, il y a une confusion un peu générale entre l'engagement et le militantisme. L'engagement, c'est simplement être fidèle à un ensemble de valeurs auxquelles on croit, et le militantisme, c'est autre chose, quoi. Le militantisme, c'est prendre parti, c'est-à-dire c'est appliquer des grilles de lecture, des grilles d'analyse, ou des grilles de traitement journalistique différentes en fonction des interlocuteurs, selon qu'ils sont d'un côté ou de l'autre, quoi. Donc, moi, je crois que c'est de ça qu'il faut se prémunir, pour ne pas tomber dans le militantisme, justement. Alors, au monde, nous, on a un exemple un peu canonique qu'on aime bien ressortir, c'est la façon dont on traite de l'information scientifique, de la manière dont une étude scientifique est publiée, de sa solidité, etc. Et vous vous souvenez qu'en 2012, il y a eu cette affaire qui a défrayé la chronique, de la publication de Gilles-Éric Séralini sur un maïs OGM qui était supposé donner des tumeurs monstrueuses à des rongeurs en laboratoire. Cette étude, on l'a passée à la même grille d'analyse, au même crible que les études industrielles. Et ce qu'on a fait, c'est que dès le lendemain de la publication de cette étude, on a créé un éditorial pour dire qu'on n'avait pas confiance dans ces résultats et qu'ils ne nous convainquaient pas. Donc voilà, pour moi c'est ça, se tenir à distance du militantisme, c'est précisément essayer de s'astreindre, quel que soit ce en quoi on croit, ou quelles que soient ses valeurs, c'est s'astreindre à appliquer les mêmes grilles d'analyse à ce qui vient d'un côté comme de l'autre.
Et de faire preuve toujours d'honnêteté intellectuelle.
C'est le minimum, je crois. L'honnêteté, surtout la sincérité. Je pense que les gens, ils achètent des journaux, ils lisent des journaux parce qu'ils ont l'idée que ce que le journaliste écrit, il l'écrit avec sincérité. Mm. Et donc, je pense que c'est quelque chose qui est important.
D'ailleurs, j'ai vu que The Guardian était considéré comme un des médias qui suscite le plus de confiance au Royaume-Uni, alors qu'il a une couverture extrêmement de qualité des enjeux environnementaux. Donc, on voit
Absolument.
Que la confiance peut aussi naître du traitement rigoureux d'une information qui sont techniques et compliqué.
Absolument. Et le Guardian, c'est vraiment un des journaux européens, peut-être le journal européen, qui accorde le plus de place aux questions environnementales.
Et qui finance énormément ce sujet-là, parce que c'est aussi des enjeux économiques. Pour pouvoir avoir une information de qualité, il faut des gens de qualité.
Absolument.
Alors, quand on regarde un peu ce qui sort dans la presse, on a souvent l'impression que sur le diagnostic, c'est assez facile de trouver de l'information, c'est-à-dire que les choses vont mal, la crise est là, elle avait été anticipée mais pas du tout réglée, que ce que disent les scientifiques, comme tu l'as dit tout à l'heure, ça se passe et ça se passe plus vite et plus gravement que ce qu'on avait pensé. Mais finalement, donc on a souvent une couverture qui est assez noire et qui le reflète la réalité. Mais c'est plus difficile de trouver un traitement journalistique adapté pour parler des alternatives, des solutions. Je donne juste un exemple. Quand on parle de sobriété, on est vite dans le cliché de la lampe à l'huile ou de la bougie, alors qu'on pourrait aussi parler de la dimension sobriété, et non pas en culpabilisant les gens à titre individuel, mais avec la dimension collective et politique, bien sûr, qui devrait s'imposer. Comment tu vois la façon dont tes collègues, dont tes confrères et toi-même, vous avez de l'espace ou pas pour traiter le champ des solutions et la dimension politique autour des solutions?
Alors en effet, la presse souvent traite des solutions à ces problèmes sous la forme de reportages ou de cas d'école, pour mettre en avant ou mettre en majesté, en quelque sorte, des cas individuels, des gens qui ont réussi à vivre 6 mois sans produire de déchets, à partir en vacances à vélo avec leur famille, ce genre de choses. Et l'idée sous-jacente, c'est un petit peu de montrer que c'est possible, on peut le faire, on peut chacun prendre notre part de ce grand problème et puis améliorer les choses. À la vérité, je pense que c'est ce genre de traitement journalistique montre en réalité exactement l'inverse de ce qu'il est supposé faire, c'est-à-dire qu'en réalité, on voit bien que ces gens, pour parvenir à faire ce qu'ils ont fait, déploient des trésors d'ingéniosité, monopolisent tout leur temps disponible pour remplir ces objectifs. Et en gros, ce que ça montre, c'est que ça ne marchera pas au niveau individuel. Chacun ne pourra jamais être en mesure de produire la somme d'efforts qu'il faut pour ne plus consommer de plastique, de déchets, de réduire au minimum son empreinte carbone, etc. Et je trouve que c'est un peu dommageable, cette manière d'aborder les choses. Surtout que quand on s'est vraiment penché sur les ressorts en fait, de cette crise environnementale, on voit que tout est absolument connecté et lié. Et qu'il n'est pas possible de demander aux individus d'être...
De porter seul le fardeau.
Exactement, d'être sobre dans un monde qui n'est pas fait pour la sobriété. L'exemple que je prends tout le temps, c'est que quand j'avais une dizaine d'années, que j'étais petit, pour que je sois content, j'avais besoin d'un vélo et de 10 francs pour aller m'acheter des bonbons, et c'est tout. Voilà. Aujourd'hui, pour que le même enfant réussisse à entretenir son réseau social, soit épanoui, etc. Il lui faut beaucoup plus de choses. Il lui faut des choses qui sont beaucoup plus dommageables à l'environnement. Il lui faut un smartphone,
portable,
il lui faut
un
accès
Switch
à tout un tas de réseaux sociaux. Il lui faut des choses qui étaient totalement inutiles à l'époque. Donc en fait, l'enjeu, il est véritablement systémique. Il est sur la manière dont on utilise, dont on habite le monde, dont on crée du lien social entre nous, etc. Et ça, c'est évidemment très difficile de construire un narratif ou un traitement journalistique autour de ça, quoi. C'est très difficile de faire du journalisme avec cette idée sous-jacente qu'il faut changer intégralement le système. Et c'est quelque chose que la plupart des gens, et l'écrasante majorité des élites politiques et industrielles ou économiques, ne sont pas du tout prêts à envisager. C'est quelque chose qu'on est incarcéré dans des visions du monde qui font qu'on a un peu naturalisé l'économie. L'économie, elle marche comme ça, elle marche avec de la croissance, elle marche dans l'accélération permanente, dans la consommation de matériel, de matière, et d'énergie. Et ça n'est pas remis en cause. Et ce qu'on essaye de faire valoir pour résoudre le problème, en quelque sorte, et entre guillemets, c'est de demander aux individus de prendre sur eux de vivre sobrement dans un monde qui n'est pas fait pour la sobriété. Et ça, je crois que ça ne marchera pas.
Alors, pour essayer l'expérience zéro déchet, je confirme qu'on s'aperçoit très vite qu'il n'est pas normal que ce soit si difficile de consommer autrement et d'avoir moins d'emballage, etc. Mais alors, est-ce qu'il y a une réflexion au niveau journalistique sur comment arriver à faire émerger cette part du collectif, du politique, et puis d'avoir aussi un discours qui soit tourné vers les solutions pour pouvoir montrer aux gens qu'il existe une voie? Est-ce que la crainte, c'est de tomber dans une approche partisane, politicienne, ou est-ce que c'est parce que l'objet même est trop compliqué à aborder?
Non, je crois que l'objet même est trop compliqué, et puis surtout, l'écosystème médiatique, il est partie prenante de cette économie-là, de ce système. On ne peut pas se tirer complètement une balance. Souvent, les lecteurs nous font ce reproche de dire: vous faites de la publicité pour des grosses voitures dans vos pages, alors que vous écrivez des articles pour expliquer que l'empreinte environnementale de ces machines est délirante, que ça ne va pas du tout, etc. etc. Bon, c'est bien l'indice que c'est très inconfortable du point de vue des médias de remettre en cause un système qui malgré tout les fait vivre, quoi. Et l'information, c'est un marché. L'information, elle est produite et consommée dans le cadre d'un marché. On peut le regretter, mais c'est comme ça, quoi. Donc c'est des transformations systémiques très profondes qu'il faut imaginer et qui, à mon avis, passe plus par les sciences humaines et sociales, par la recherche scientifique, par la réflexion, par la mise en circulation d'idées nouvelles, de narratifs différents qui sont un petit peu plus enthousiasmants que la simple peinture de ce qui nous arrive et qui est effectivement très noir et assez déprimant. Donc je pense que c'est quelque chose qui se passe au-delà du journalisme. Le journalisme ne peut pas, je pense, à lui seul ou à soi seul, révolutionner tout le système socio-économique dans lequel on opère. Je pense que c'est vraiment un objectif qui doit être celui, en premier lieu, des responsables politiques. Parce qu'après tout, il n'y a aucune raison de se dire que la protection de notre cadre de vie, c'est quelque chose de droite ou de gauche. Ça devrait être l'objet d'un consensus très large au sein du monde politique. Ça ne l'est pas, et je pense que ça commence ça devrait commencer par là.
Est-ce qu'on peut vraiment considérer que ça devrait faire l'objet d'un consensus, puisqu'en fait les solutions elles sont orientées selon où on place le curseur, donc ça, les solutions elles peuvent être de droite ou de gauche. Le consensus, il est sur l'état du monde, mais en termes de solutions, est-ce qu'on ne retombe pas dans quelque chose qui doit être éminemment discuté, débattu, avec forcément des approches différentes selon si on valorise plutôt l'égalité, la liberté, etc.
Alors, en l'état de ce qu'on sait, en fait, je pense que le consensus, il va au-delà du simple constat. Parce que tout simplement, on sait de manière certaine qu'il faut arrêter de brûler des fossiles, du pétrole, du gaz, du charbon, pour faire cesser l'essentiel de l'augmentation des émissions de gaz à effet de serre d'origine humaine. Donc, j'ajuste ça.
Ça, c'est consensuel.
Mais il n'y a aucune...
Les
solutions qui sont, par exemple, les solutions de la droite un peu transhumaniste, qui dépeint énormément sur la droite de gouvernement, en tout cas en France, c'est de dire on va développer des technologies qui vont nous permettre de continuer à brûler du charbon et du pétrole et du gaz, et puis
on
de stocker...
Capter,
voilà. Mais ça, de plus en plus... Il y a un consensus très fort dans la communauté compétente selon lequel on ne va pas réussir à faire ça. Ça ne va pas marcher, quoi. Là, aujourd'hui, ce vers quoi on va, en termes de solutions techniques, hein, c'est quelque chose d'absolument terrifiant. C'est quelque chose que moi, j'avais écrit un petit peu sans sourire aux lèvres, mais disons dans une certaine incrédulité. C'est des systèmes de géo-ingénierie mondiale où on va essayer de balancer des aérosols sulfatés dans la haute atmosphère pour occulter une partie du rayonnement solaire. Donc, on va développer des technologies pour faire ça, etc. Et c'est quelque chose qu'on voit en train de monter très, très fort. C'est en train de devenir mainstream. D'une certaine manière, il y a peu de temps, Philippe Aguillon, grand économiste français, qui a fait une tribune dans Les Échos pour présenter, voilà, pour rendre, pour mettre dans l'espace public ce genre de solution. Donc c'est quelque chose vers quoi on va. Mais le consensus des gens des chercheurs qui travaillent sur ces questions, il est qu'il ne faut pas en venir à ces extrémités. Donc les solutions de droite et de gauche, il y a toujours un moment où en fait on s'évade un petit peu du consensus. Le consensus, il est clair. Il faut arrêter de brûler des fossiles. Et c'est vraiment arrêter de brûler et d'utiliser des fossiles, c'est-à-dire les utiliser sous forme de plastique, d'engrais de synthèse, de pesticides, etc. C'est ça qu'il faut arrêter. Et donc ça, c'est très consensuel en réalité.
Merci beaucoup Stéphane Foucard.
Merci.
Ce que je retiens de cet échange avec Stéphane Foucard, c'est que la profession de journaliste est en pleine évolution actuellement, qu'il y a encore beaucoup de frustration face à ce qui avait été annoncé, expliqué et qui avait été finalement dénigré par quantité de lecteurs qui n'acceptaient pas les conclusions transmises par les journalistes autour des consensus scientifiques déjà de l'époque. Mais on voit aussi que finalement la profession est en évolution dans une réflexion beaucoup plus large. Quand Stéphane Foucard parle de la mise en circulation des idées qui vont bien sûr au-delà du journalisme, on voit aussi qu'il y a une imprégnation et que toute cette hiérarchie des valeurs dans le traitement de l'actualité, toute cette réflexion autour des sciences humaines qui doivent irriguer aussi la dimension politique des articles est une évolution qui peut tout à fait voir le jour dans les années à venir. Et donc pour cela aussi, je le remercie infiniment.
Une des missions des journalistes, c'est de porter à la connaissance du public une information fiable, vérifiée et contextualisée. Et devant les enjeux de la triple crise climatique, environnementale et de l'effondrement de la biodiversité, les scientifiques se mobilisent aussi pour expliquer la gravité de la situation et rendre accessibles aux politiques et au grand public les données de la science. Vous allez écouter le témoignage d'une scientifique de l'organisation Scientist Rebellion.
Science Rebellion Germany. So Science Rebellion is an international group of scientists, academics and supporters who think that those who are best placed by their education to understand the extent, speed, urgency, violence of the climate and environmental crisis have to step up and take action. So we engage in actions of non-violent civil disobedience to communicate the emergency of the climate crisis, because we think like a lot of people know that there is a problem with the climate, but not many understand really how urgent it is. And there is a special responsibility on the shoulders of those who see the extent of the gap between what we know scientifically about the crisis and how little politics are doing to tackle this massive problem. And they have a duty, so scientists have a duty to communicate the extent of this gap to the public, because the media are failing us. Politics obviously are not communicating their failures for obvious reasons, because they want to be re-elected, so who else would be there to talk about it and to express the fears and the anxiety that we have actually when we look at the data. So that's why we call on all academic scientists to step up, because in the past we always thought this is a rational discourse that we just have to explain more and more and more, but now we know it's never been about information, it's always about power, and we have to embrace the power tools that lie in our hands, which is our reputation, our standing in society, and take it to the streets.
Merci à toutes et tous pour votre écoute et à très vite. Cette émission a été préparée et présentée par Michel Forst et Magali Lafourcade. Produite par Amicus Radio. Vous pouvez écouter librement toutes nos émissions sur le site d'Amicus Radio et vous abonner à ce podcast sur les plateformes d'écoute pour ne manquer aucun épisode.